Spirituel aujourd'hui sera question de Saint Philippe Néri. Je vous en ai déjà parlé. L'auditoire avait été absolument fait et presque éberlué devant ce saint étonnant. C'est vrai que c'est un saint étonnant. C'est l'un des saints les plus étonnants de toute l'histoire des religions, probablement, en tous les cas, certainement de la religion catholique. Philippe Néri, on dit souvent Philippe de Néri, mais c'est Philippe Néri, Filippo Néri, qui est né en 1515 et mort en 1595. Il est donc mort à 80 ans, comme vous voyez. Il était né à Florence, mais il a vécu à Rome. Il n'en est jamais sorti, il ne voyageait pas. Et puis, c'était un homme extrêmement joyeux, blagueur, frasqueur même. Et pourtant, il a vécu l'austérité des béatitudes, comme on dit souvent. C'est-à-dire qu'il a suivi à la lettre cette espèce de grand sermon du Christ, là, bienheureux, les pauvres, etc. Et il a été un modèle dans ce sens-là. Et il suffisait d'ailleurs de voir vivre ce prêtre qui était tour à tour perdu en extase devant l'hostie pendant sa messe. Et puis, il s'est donné sans réserve aux jeunes. Il s'est intéressé énormément à la jeunesse de Rome, aux malades aussi, puis aux prisonniers. Et c'était ça le secret du succès de sa fondation. Il a fondé les oratoriens, qui sont membres donc de l'oratoire du divin amour qu'il a fondé. On raconte à son sujet des anecdotes de toutes sortes. Sa vie est pleine d'anecdotes. Je vous en raconte une pour commencer. Avec les pénitentes, Philippe Néri n'a pas toujours les mêmes façons d'agir. Voici une façon d'agir qui est très spéciale. Avec une femme qui s'accuse de médisance, c'est-à-dire qu'elle raconte des choses méchantes au sujet des autres. Elle a un esprit tordu qui lui fait voir toujours ce qu'il y a de mal. Et elle a aucune componction, disent les anciens textes, c'est-à-dire aucun regret. Philippe Néri lui inflige comme pénitence de plumer une poule tandis qu'elle va marcher dans la rue à Rome. La semaine suivante, cette même femme s'accuse encore d'avoir médit, d'avoir dit des choses terribles sur le compte des autres. Il lui dit, avez-vous fait la pénitence que je vous avais donnée? Elle dit, oui, oui, ponctuellement. Il dit, eh bien, aujourd'hui, allez par le même chemin et vous me rapporterez toutes les plumes que vous y avez semées. Elle dit, mais vous me demandez l'impossible? Et il lui répond, de même, mon enfant, est-il impossible de reprendre les paroles méchantes que vous répandez à longueur de journée? On trouve ces anecdotes en particulier dans l'humour des saints publié aux éditions du Cerf par Jacques Roy, R.O.I. Roy. L'humour des saints, c'est un petit volume. Je sais pas si... Je crois que ça existe encore. C'est pas extrêmement ancien. C'est un livre de 1980. L'humour des saints, de Jacques Roy aux éditions du Cerf. C'est le mois de mai qui s'achève. Mois de Marie. Saint Philippe Néri avait en partie une bonne dévotion à Marie. Il est né en 1515... à Florence, je vous ai dit, où son père était notaire. Son père a ajouté à sa profession pour pouvoir vivre la pratique de l'alchimie. Oui, ça se pratiquait à l'époque, l'alchimie. C'est peut-être à cause de cela que le père de notre saint n'a pas réussi à faire fortune. Comme en témoigne l'inventaire du mobilier quand il est mort, on ne voyait sur son testament ce qu'il laissait, ben il laisse pas grand-chose. Ce mobilier, ni riche ni somptueux, possède du moins ce que l'on trouve dans toutes les familles vraiment chrétiennes. Qu'est-ce qu'on trouve? Une Vierge Marie en plâtre, puis une Vierge martyre dans un petit cadre. C'est à peu près les seuls objets religieux. C'est devant ces images, d'ailleurs, que Philippe Néri, enfant, apprend à prier. Il est bien sympathique aussi de penser que c'est par la Sainte Vierge qu'il a tout d'abord des rapports avec le ciel, avec l'au-delà. Sa mère, qui est la fille d'un menuisier, a heureusement apporté dans la famille une aisance relative. Ils avaient de quoi manger, s'habiller. De 1520, donc de l'âge de 5 ans à 15 ans, 1520 à 1530, le petit Philippe Néri habite la paroisse Saint-Georges dans la partie la plus paisible de Florence. Il y commence ses études. C'est beau, Florence. Vous êtes peut-être déjà allé. C'est une des plus belles villes du monde. Il y commence ses études en montrant déjà ce qu'il va être toute sa vie. Qu'est-ce qu'il va être toute sa vie? Pieux, sans doute. Mais aussi très joyeux, très rieur, très blagueur et sensible. C'est un ami du rire et des farces. Et c'est un beau gars, en plus de ça. Puis il est aimé de tous ceux qui l'abordent. Son exubérance et son entrain seront d'ailleurs chez lui des moyens voulus. Hein, il est vu, mais ça vient aussi de sa nature. Puis, délibérément, il cherche à faire des blagues pour faire du bien. Mais parfois, ça peut être blessant. Et au procès de canonisation, on va dire de lui, il était affable. Pas de mesure à son bonheur et à son allégresse. Aussi était-il rare qu'on réussisse à lui échapper des mains. Parce que on voulait rester avec lui tellement il avait de l'allégresse et du bonheur de vivre. C'est si rare des gens si joyeux. Et de grands et graves événements se déroulent à cette époque-là à Florence, qu'il quitte à 17 ans, à peu près vers 1532. Il y a à peu près pas d'argent, quoi. Il ne poursuit pas de bagages. Et il déclare à qui veut bien l'entendre qu'il n'a d'ailleurs d'autre patrie que le ciel. Il y a là déjà à 17 ans cet élan du futur très grand mystique qu'il va devenir, très grand, puis le début aussi d'une foi profonde. Il n'a pas d'autre patrie que le ciel. Son projet est de se faire ermite, pour se donner plus entièrement à Dieu. On trouve ça, hier, Sainte Madeleine Sophie rêvait d'être chartreux, et puis là, voilà qu'il veut être ermite, c'est la même chose, ermite, chartreux, les chartreux sont des ermites. Et il dit une très belle chose à ce sujet, il est tout jeune, 18-19 ans, qui veut autre chose que le Christ ne sait pas ce qu'il demande. Qui veut autre chose que le Christ ne sait pas ce qu'il demande. Alors, nous voilà en route vers Rome, centre de la religion catholique, où il veut vivre et mourir. Et une fois là, on le voit dans tous les lieux, tous les endroits où il essaie d'opérer des réformes religieuses qui s'imposent alors. Il est jeune, mais il veut réformer. On le voit dans la foule et au milieu de la masse, dans les paroisses, dans les rues. Il est laïque, mais il veut changer des choses, il vit pauvrement. Et il n'hésite pas à se mortifier continuellement. Il cherche pas ses aises. Cette vie d'ermite dure jusqu'à son sacerdoce, c'est-à-dire durant au moins 14 ans, jusqu'à l'âge de 36 ans. C'est du solide, il est ordonné seulement à 36 ans. Un peu comme le curé d'Ars demain qui est ordonné sur le tard. Il est jeune. Et tout le porte vers la jeunesse. Il est jeune de cœur. Il est jeune. C'est parmi les jeunes gens qu'il va tout d'abord se faire une célébrité. Il est prompt à s'enflammer pour eux. Mais vers la fin de sa vie, son enthousiasme pour la jeunesse va s'atténuer un peu. Et il va dire cette parole presque triste. La ferveur des jeunes gens est un feu de paille. La ferveur des jeunes gens est un feu de paille. Souvent, notre jeunesse est balayée. Balayée. Oui. Alors, attention, là, les jeunes qui m'écoutez. Laissez-vous pas balayer. Restez debout. Le chrétien, debout. Bientôt, Philippe Néri aime beaucoup les visites dans les lieux de prière et de solitude, de la nuit surtout. Et la nuit, elle a pour lui un charme inexprimable, parce qu'elle favorise le recueillement, et c'est donc vrai. Je travaille beaucoup la nuit, et c'est donc vrai. J'aime ça travailler la nuit, dans le grand silence, avec une petite lampe. Jusqu'en 1548, ce jeune Florentin, ce jeune Philippe Néri, subit l'influence de la campagne de Rome, de ses ruines, de son ciel qui est si beau. sans s'être encore mêlé à un groupement organisé. C'est alors, pardon, que vers 1550, à 36 ans, que cette vie sans règles et une forme de prédication sans mandat font place au sacerdoce. Il a eu l'avantage de fréquenter à Rome Saint Ignace de Loyola. Mais il est surtout le disciple d'un prêtre fervent, Penciano Rosa, qui avait formé la confrérie de la très sainte Trinité des pèlerins. Elle a pour but le soulagement des malheureux, et ça l'intéresse. Car il veut chasser la misère spirituelle aussi bien que la misère physique. Saint Philippe va devenir l'apôtre de Rome, admiré de tous, de tout le monde. Vraiment, il va être très populaire pour son zèle à l'égard des pécheurs. Et oui, pour son zèle à l'égard des pécheurs. Parce qu'il trouve qu'il souffre trop. Mais surtout, il est gratifié des plus admirables faveurs du ciel, vous en raconterez tout à l'heure. Il est parfois, exemple, il est parfois pris de tremblements qui donnent l'impression de possession surnaturelle. On le voit un jour dans l'église de la Minerve, chez les Dominicains, sanglotant et tremblant pendant tout le chant de complis, l'office du soir, qui est toujours le même, et qui est si beau à la noirceur, éclairé par une petite lampe, et qui se termine par un beau chant à la Vierge, au besoin de Salve Regina. Et ces phénomènes extraordinaires ne l'empêchent pas de posséder les qualités plus aimables et plus humaines. Cela explique la séduction qu'il exerce autour de lui, puis les sympathies qu'il s'attire. Il ne craint pas, bien au contraire, certaines excentricités. Et là, ça s'explique par son tempérament. Et ça se faisait à l'époque où il vivait. Il se costume de façon ridicule, il s'habille à l'envers, il porte avec sa soutane de gros souliers blancs. Vous voyez ça, vous imaginez. Mais il ne faut pas croire, d'ailleurs, qu'il se livre à ses originalités, avec l'idée d'amuser la galerie ou de jouer de bon tour. Il a des idées bien plus élevées. Il utilise ses bizarreries pour entrer dans les sentiments les plus profonds d'humilité. On trouve ça dans le livre de Parel et Bordet, qui écrivent dans Saint Philippe Néri et la Société romaine de son temps, paru en 1958, on trouve cette phrase: « Cette vertu pourrait passer pour tout de son ascèse. Hein. Il s'agit de faire pratiquer, au fond, l'humilité à soi, tout le premier, et aux autres, dont on règle la conscience. Et Saint Philippe ne craindra donc pas de se rendre ridicule, bien persuadé que plus il s'enfonce dans le mépris public, plus il progresse en humilité, et les intentions sont admirables, disent-ils. N'empêche que pour en venir à ses fins, Philippe commet des extravagances à lui seul permises. Où s'arrêter du moment que la perfection se mesure au nombre et à l'énormité de folie que l'on est capable d'exécuter en public à sa propre dérision? » Je tiens absolument à vous faire remarquer que ce n'est pas pour ce côté de son caractère que l'Église a canonisé Philippe Néri, mais je ne laisse pas passer l'occasion de constater avec vous une fois de plus cette espèce de double vérité, que la grâce ne supprime pas la nature et que le vieux proverbe trouve une fois de plus sa justification. Vous connaissez ça, un saint triste est un triste saint. Je vous ai dit que Saint Philippe Néri a été ordonné à 36 ans prêtre, après avoir été un laïc qui prêche, qui essaie de transformer les choses et d'aider les autres et d'aider l'Église. Dieu va l'acheminer vers la fondation donc de l'oratoire, les oratoriens, où est entré, comme vous savez, le cardinal Newman, dont je vous ai déjà parlé, le fameux cardinal Newman au siècle dernier, cet anglican converti, admirable. Et cet oratoire va être la grande œuvre de sa vie. Il aime faire avec ses compagnons ses pèlerinages aux sept églises à Rome. Ça se faisait beaucoup il n'y a pas si longtemps. Et ces pèlerinages s'achèvent toujours le soir par une station à Sainte-Marie-Majeure, cette immense et magnifique église. Et on y chante un motet, comme le motet que vous venez d'entendre, un motet à la Sainte Vierge, dans le genre du Salve Regina que Palestrina a composé à cette époque. La nouvelle congrégation d'oratoire a pour siège à Rome l'église Santa Maria in Vallicella. C'est pas une église passionnante à visiter, mais j'y suis allé souvent et ça vaut la peine. Puis il y a la grande bibliothèque, fantastique à voir, si on peut rentrer. C'est la plus ancienne peut-être des églises de Rome dédiées à la nativité de la Vierge, Santa Maria in Vallicella. L'église doit être construite à cette époque et dans la démolition du vieil édifice, on a laissé debout un coin qui devient une chapelle pour la réserve eucharistique et une image de la Vierge. Et un jour, Saint-Philippe Néri fait remarquer qu'il a vu la Madone soutenir le toit de cette chapelle prête à s'écrouler. Et en effet, un bout de la poutre principale a quitté le mur et reste suspendu miraculeusement. Des témoins affirment que c'est authentique. Aujourd'hui, on met tout ça en doute. Pourtant, les gens étaient sérieux quand même. Quand l'église est reconstruite, les compagnons de Saint-Philippe s'écrient, « Nous ne sommes plus dans une maison étrangère. Nous sommes enfin chez nous. » Ou pour mieux dire, dans la maison de la Madone, la très sainte Mère de Dieu. Elle est grande, la place que tient la Sainte Vierge dans la piété de Saint-Philippe. Il lui adresse, pour lui recommander ses fils spirituels, des paroles si consolantes, dit-on, qu'on dirait qu'il la voit devant lui. Les saints ont ce don de prier et de nous faire comprendre qu'ils s'adressent à quelqu'un. C'est presque triste à dire, mais c'est rare. Nos prières ne s'adressent à peu près à jamais, jamais à personne. On entend des prières, des prières, des prières, des prières. On dirait qu'il n'y a personne pour les écouter. Quand on entend le ton, la façon dont nous prions, nous sommes tout croches dans nos églises, n'importe comment. C'est difficile se recueillir et avoir la foi des saints, difficile. Il a une courte formule dont il savoure chaque mot. Il dit « Vierge Marie, Mère de Dieu, priez pour moi ». C'est un résumé du « Je vous salue Marie ». Ces mots ajoutés à d'autres comme les suivants, « Dieu, venez à mon aide, Marie, Mère de grâce, Jésus, sois pour moi Jésus, sois pour moi Sauveur, si vous voulez ». Ça forme un chapelet, c'est son invention que les fidèles aiment à réciter. Et c'est pour offrir aux jeunes gens un idéal féminin capable de purifier leur cœur et d'enthousiasmer leur âme qu'il a la très heureuse pensée d'organiser au printemps des cérémonies du mois de Marie, oui. Pour ça qu'il fait ça, les cérémonies du mois de Marie. Vers la fin de sa vie, en 1594 à 79 ans, il lui arrive une chose étrange, une vision vient déchaîner chez lui une de ces émotions auxquelles il est sujet, encore une fois. Il est au terme d'une grave maladie qui l'a fait beaucoup souffrir et ses médecins le trouvent très abattu. Ils sont près de lui quand tout à coup, il se lève et il s'assoit et il s'écrie « Oh, ma bénite Madone, ô très sainte Mère de Dieu, qu'ai-je fait pour que vous daigniez venir à moi ?» Et on le voit se dresser, se courber de la tête et du buste. Et il étend, il ramène les bras avec véhémence, comme s'il voulait embrasser, dit un témoin, quelqu'un, et qui se trouverait au pied de son lit. Et croyant qu'il ne s'agit que d'un mouvement ordinaire de dévotion, on croit, pour lui, qu'il est un peu perd l'esprit. Le médecin essaie de le calmer, et lui prend le bras pour le retenir, mais Philippe lui dit en pleurant, « Laissez-moi, laissez-moi. Ne voulez-vous pas que j'embrasse ma mère très sainte, venue pour me visiter ?» Et subitement guéri, il dit au médecin qui l'entoure, « N'avez-vous pas vu la bienheureuse Mère de Dieu, qui par sa visite m'a délivré de mes maux ?» Il leur demande de garder un rigoureux secret sur la faveur qu'il a eue. L'année suivante, en 1595, l'année de sa mort, Philippe expire à 80 ans. Il va donc rendre à la Vierge Marie la visite que quelques mois plus tôt il a reçue d'elle. Et immédiatement la piété des gens de Rome lui voue un culte véritable. Il y a des lampes qui brûlent devant son image. Il y a des ex-voto qui affluent sur sa tombe où on reconnaît avoir obtenu une grâce ou un miracle. Sa chambre est transformée en chapelle et on voit les fidèles s'y succéder en foule pour vénérer son portrait. Son portrait qui est entouré de scènes de miracles et chaque année, sa fête est célébrée avec une extraordinaire solennité à Rome. Aussi, on n'a pas été surpris que le pape Paul V le béatifie en 1615 et quand le pape Grégoire XV l'a canonisé 7 ans plus tard, en 1622. Tout ça s'est fait très vite. Il était mort en 1595, béatifié 20 ans plus tard, et 27 ans après sa mort, il était déclaré saint. Les cérémonies de la canonisation ont revêtu un éclat inconnu jusqu'alors. Pensez-y, je vous en ai déjà parlé, c'était extraordinaire. Quelle merveilleuse bande de saints, pourrait-on dire, de l'Église. Ils sont placés ce jour-là sur les autels. Il y a Isidore le laboureur, dont je vous ai parlé il y a 2 ans et demi, grand saint espagnol, très peu connu, Saint Ignace de Loyola, un basque, Saint François Xavier, un espagnol, Sainte Thérèse d'Avila, une espagnole. Les grands saints, Thérèse d'Avila, François Xavier, Ignace de Loyola, formidable. D'accord, Isidore, le laboureur, patron de Madrid, n'est pas tellement connu que des Espagnols. Par contre, le renom dont jouit le fondateur de la compagnie Jésus, François Xavier, le conquérant, qui vient d'ouvrir à l'Église les chemins de l'Extrême-Orient, puis la grande mystique, Sainte Thérèse d'Avila, réformatrice du Carmel, tout ça le même jour. Mais le plus fêté en ce jour par le peuple de Rome, c'est cet humble prêtre, pauvre, que depuis un quart de siècle, ces gens aiment et vénèrent, celui que, dans la suite des temps, le peuple chrétien de l'Église catholique tout entière regarde toujours, toujours comme la plus parfaite incarnation de l'union de la sainteté et de la joie. Ce dont je vais vous parler dans la deuxième partie de l'émission, en m'attardant aux différents détails. Au moment de sa mort, on lui a dit, « Père, vous partez sans lui donner votre bénédiction. » Alors Philippe ouvre les yeux, l'élève un instant, sa tête s'incline et dit, « C'est comme ça qu'il est mort dans un soupir. » On peut dire que sa dépouille, ensevelie le surlendemain à la Vallicella, a été vraiment le centre d'une grande dévotion. Et c'est grandiose de penser qu'il a été consacré ou vénéré et canonisé si rapidement. Et on a publié, ces novalistes qui distribuent ça, on a publié chez Bayard Édition Centurion un Philippe Néri ou le feu de la joie de Paul Turks. T-U-R-K-S. Un ouvrage très bien fait, c'est pas trop long, 200 pages, mais très 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 bien documenté, qui se lit bien, qui est bien imprimé. Je le vous le recommande fortement. On voit que c'était un homme joyeux, hors norme, extravagant, profondément individualiste, comme on dit au dos. Il y en a un autre qui est paru quelques années plus tôt, c'est un Socrate romain, Saint Philippe Néri, par Louis Bouillet, le fameux Louis Bouillet de l'oratoire, un oratorien justement. Et je m'inspire de lui pour vous parler maintenant de Saint Philippe de Néri. Ce qui attire d'abord à Saint Philippe Néri, aujourd'hui comme dans le temps où il vivait, c'est le sentiment que l'on a, quand on fait sa connaissance, de la présence en lui de l'Esprit Saint. C'est la Pentecôte dans quelques jours. Et je ne dis pas ça parce que c'est la Pentecôte, mais parce que ça, on sentait l'Esprit Saint en lui. Tout le monde ne l'éprouve pas, c'est sûr, et ne l'exprime pas de la même façon quand il le rencontre ou qu'il le lise. Mais en vivant près de lui quelque temps, on n'hésite plus. Il faut bien revenir sur les manifestations extraordinaires de ce don. Et c'est là ce qui frappait plutôt les simples gens et ce qui déconcertait les gens très sages et très cultivés, très instruits. Même si les témoignages ont finalement saisi les cœurs de bien des gens qui se refusaient à reconnaître chez Philippe, Saint Philippe, des grandes grâces. Quand Philippe parle du Christ ou de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Souvent, bientôt, un tremblement convulsif l'agite. Le mouvement est si violent des fois qu'il se communique au lit. Et s'il est un peu malade, Et même plusieurs fois, ça se communique aux assistants. Les assistants se mettent à trembler. Et la chambrette tout entière qui tremble. C'est une chose plutôt étrange. On se dit, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il ressent une flamme dans sa poitrine. À preuve, en plein hiver, pour l'apaiser, il faut ouvrir la fenêtre. Ça brûle à l'intérieur. On a quantité de témoignages, je ne peux pas tout donner les témoignages, ça n'en finirait plus, mais quantité de témoignages de ceux qui affirment avoir senti matériellement, dans lorsqu'ils donnent le baiser de paix à Philippe, quand ils l'étreignent, mais ils sentent la présence de ce brasier intérieur. Exemple, pour calmer les tentations obsédantes, ou pour apaiser les angoisses d'une âme troublée, qu'est-ce qu'il fait, Saint-Philippe Néri? Il appuie la tête de son pénitent contre sa poitrine, et la simple approche de ce feu mystérieux éclaire et purifie les consciences. Et ce sont là des témoignages qui ont surgi au procès de canonisation. On pourrait relever d'autres exemples dans l'histoire de la sainteté, de ce phénomène absolument singulier. Et la plupart appartiennent à la tradition orientale des Starlsi, dont Philippe, d'ailleurs, se rapproche par bien d'autres traits. Bon, je cite le contraste entre une vie de contemplation érémétique qui introduit à un ministère de direction spirituelle extraordinairement précis et paternel. Notons qu'aucun n'offre une aussi frappante similitude avec le cas de Saint-Philippe Néri que celui tout près de nous, là, du fameux Starets russe orthodoxe, Saint-Séraphim de Zaroff, dont je vous ai parlé le 2 janvier 1997, c'est l'émission numéro 373. Cette présence de l'esprit se traduit encore par des extases fréquentes. À certains moments, Philippe ne peut réciter un Notre Père sans être ravi hors de lui-même. Ça rappelle Sainte-Germaine Cousin, petite fille, qui s'arrêtait sur Notre Père tellement trouvait ça beau, pouvait rester là une demi-heure. Même des fois, une seule pensée suffit. Par exemple, un disciple est entré dans sa chambre un matin, il le trouve debout, une pièce de son vêtement à la main, visiblement surpris par l'extase à l'instant où il allait enfiler ce vêtement. Naturellement, c'est à la messe. Surtout, c'est le moment privilégié de ces expériences étranges. Et ici, nous allons toucher aux excentricités sur lesquelles il faudrait peut-être revenir. Mais je vous en parle parce que il faut bien en parler si on veut connaître Saint-Philippe Néri. Et je m'excuse de m'attarder à ça. C'est pas ce qui m'intéresse chez Saint-Philippe. Chez Saint-Philippe, ce qui m'intéresse, c'est sa foi, son amour de Dieu, son ministère sacerdotal admirable. Mais je vous en parle quand même. Philippe veut à tout prix échapper à ces manifestations encombrantes. Pourquoi? Parce qu'elles édifient davantage sur sa personne. Tout le monde court après lui. Ah, Santo Philippe. C'est pas Saint-Philippe qui compte. C'est Dieu qui est le saint, les saints. Et ceux qui en sont témoins courent vers lui. Il ne sait quoi faire pour empêcher tout ça. La sacristie, il s'amusera avec des petits chiens ou des oiseaux pour se distraire. Il ira jusqu'à s'y faire lire des recueils favoris de blagues. À l'hôtel, lorsque l'accès le gagne, parce qu'il va lever, il s'accroche à n'importe quoi pour résister. Il se promènera sur le marchepied les marches de l'hôtel, là, en interpellant le servant ou les assistants. Ou bien il va jouer avec ses clés ou sa montre, en lisant l'Évangile de crainte d'être trop emporté. Mais ça ne sert à rien. Au fur et à mesure qu'il va avancer dans la messe, dans le Saint-Sacrifice de la messe, dans l'Eucharistie, il y a une exaltation dont il n'est plus maître qui va le transporter. Le soulever. Il chantera les paroles plus qu'il ne les dira. Et il va sembler s'enlever de terre une fois qu'il aura consacré. Enfin, ils lui font en venir à la célébration solitaire. Il peut plus célébrer la messe en public. Ces phénomènes-là l'ennuient. Le servant, au moment d'une de ses interminables communions, où il reste en extase devant l'hostie, va l'entendre répéter comme dans un effroi sacré plein de tendresse, penché sur le calice. Ah, c'est du sang. Ah oui, c'est vraiment du sang. Et après cela, il n'y a plus à s'étonner qu'il ait, dans ses dernières années, à peu près renoncé à parler autrement que d'un mot en public. Tout discours sur les choses divines se perd au bout d'une minute ou deux dans le bégaiement et les larmes. Il pleure. Une fois, on le voit redescendre de chair sans avoir pu prononcer un mot. Alors les gens les plus proches de l'escalier l'entendent, quand il descend, se dire à lui-même, parce que vous savez, je le dis ça pour les jeunes, hein, on prêchait, on montait dans des escaliers, puis il y avait une chaire en haut. Vous avez dû voir ça dans certaines églises, il en reste encore, mais on s'en sert plus. Alors il l'entend se dire à lui-même, ceux qui demandent des extases ne savent pas ce qu'ils demandent. Alors, séparés de leurs sources, ces phénomènes pourraient avoir l'air de symptômes pathologiques. S'il y a des psychologues qui m'écoutent, ils vont penser ça. Mais il y en a d'autres plus directement psychologiques, où on voit bien le caractère surhumain de ces transes. Et le plus remarquable et le plus remarqué, c'est la clairvoyance. La pratique à peu près ininterrompue du confessionnal, comme le curé d'Ars dont je vais vous parler demain, a pu lui donner un coup d'œil d'une sûreté peu commune. Il reste que l'on ne compte pas les pénitents auxquels il a énoncé d'emblée toute la liste de leurs fautes, comme ça, d'un seul coup. Jusque même leurs pensées les plus secrètes, alors qu'il venait de s'agenouiller auprès de lui. Et on avouait son étonnement, évidemment. Alors là, il écartait la question d'une boutade, comme un bon barbu naïf qui lui disait, « Père, à quoi donc avez-vous reconnu mes péchés ?» Et Saint-Philippe lui répond, « À ton poil, mon cher. » Mais il n'en va pas de même quand on le voit sortir de son confessionnal pour arrêter un badaud qu'il a vu passer à travers l'église, lequel, un instant plus tard, va confesser en pleurant à ses pieds toute une triste histoire que lui seul croyait connaître et que le père lui a soufflé à l'oreille. Parce que le père l'a senti, est allé le chercher pour le confesser. C'est fou, hein? Ah, des choses comme celle-là sont presque monnaie courante pour Saint-Philippe Néri. Finalement, on s'y est si bien habitué que l'un de ses jeunes disciples, incité bien loin de lui à une faute grave, il se rattrape au bord de la chute. Il fait comme un pas de péché, parce qu'il se dit, non, le père Néri va le savoir tout de suite. Pourtant, devant un péché à commettre, on sait bien que notre Père des cieux qui nous aime le sait tout de suite. La Trinité Sainte, en nous, le sait tout de suite. Des miracles de guérison qu'on lui attribue de son vivant, je vais n'en citer qu'un, et le plus éclatant. C'est la brève résurrection du petit Paolo de Massimi, qu'il semble avoir appelé à la vie, sinon pour le confesser d'un péché grave oublié, comme l'a voulu la légende, au moins pour ne le laisser à la mort que l'âme parfaitement apaisée. Il a ressuscité un garçon. Nombreuses par ailleurs semblent les guérisons qu'il fait par la supplication d'une foi volontaire. C'est d'une audace déconcertante comment il fait des miracles. Il va dire, mettons, « Je ne veux pas que tu meures. » Et les scènes se ressemblent toutes, et la prière ardente de Saint-Philippe Néri est combinée avec la pratique du prophète Élie, dont je vous ai parlé il y a quelques jours, le 15 mai. Vous vous souvenez, c'est pas simplement d'imposer les mains aux malades, mais c'est aussi de s'étendre sur lui. C'est toujours sans doute l'idée de la présence de l'Esprit dans son cœur brûlant qui lui dicte ce geste. Il y a aussi cette conviction d'une simplicité évidente, que l'Esprit le guide par des inspirations subites. Il faudra reconnaître qu'il y a peu de saints qui ont vécu plus naturellement dans le surnaturel, ou qui, comme Saint-Philippe Néri, y ont plongé aussi quotidiennement leur entourage. Mais c'est ici le paradoxe perpétuel de Philippe Néri. Ce paradoxe qui va éclater. Dans ce mysticisme même, Saint-Philippe reste d'une humanité qui est incroyablement proche des hommes les plus simples. Personne ne juge plus froidement que lui de ces phénomènes surprenants. Et s'il y a jamais eu un mystique prudent qui avait peur de l'illusion et même de tout signe extérieur de surnaturel, c'est bien Philippe Néri qui était plongé dedans. C'est curieux. Il accueille avec beaucoup de prudence les séries de faveurs extraordinaires et les récits des visionnaires. Si on lui parlait des maladies mystiques d'une pieuse jeune fille, il disait « qu'on la marie ». C'est ce qu'il répliquait. Sainte Thérèse d'Avila, elle disait « qu'on lui fasse manger de la viande ». Pourtant, c'est une grande mystique. Une autre scène au confessionnal va nous peindre à ravir ce personnage merveilleux qui est Philippe Néri. C'est une femme qui s'appelait Sulpicia Sirleta, qui lui a vu célébrer la messe et elle ne le connaît pas encore, sans doute. Elle n'a été qu'éberluée. Peu de temps après, voici qu'elle se confesse à lui, puis elle veut avouer ce qu'elle regarde maintenant comme un jugement téméraire. Je lui laisse la parole. Elle lui dit, « Père, j'ai dit, puis j'ai eu honte de continuer. » Alors, le bienheureux Philippe me dit, « Sotte, tu as murmuré sur mon compte, n'est-ce pas ?» Et je lui répondis, « Père, oui. » Et alors il me dit, « Oui, alors, qu'est-ce que tu as dit ?» Alors elle lui dit, « Père, je vous avais vu vous élever de terre pendant que vous disiez la messe. » Et Saint-Philippe lui dit aussitôt, « Tais-toi, tais-toi. » En se mettant la main sur la bouche, « Tais-toi, tais-toi. » Et je lui dis alors que je m'étais dit dans mon cœur, « Hélas, ce père doit être possédé du démon. » Le bienheureux Philippe Néri se met alors à rire et me dit, « C'est vrai, c'est vrai. » Et le voici, pris sans doute par le fou rire, qui répète avec bonheur dans l'ombre du confessionnal, « Oui, je suis possédé, je suis possédé. » Il était possédé par l'Esprit-Saint, évidemment. Plus généralement et plus profondément, on sait ce qui l'attirait le plus vers lui, les manifestations de l'Esprit-Saint, qui l'élevait visiblement au-dessus de l'humanité, ou ce pouvoir qui consiste sans plus à rendre cette humanité déchue à elle-même, tant il convertissait de monde, en purifiant les hommes et les femmes de toutes les tâches obscures du péché, en les illuminant de la charité divine. L'Esprit donne à l'humanité de Saint-Philippe quelque chose de cette profondeur limpide, hein? Et puis aussi de cette simplicité qui est sans fond et qui distingue la figure du Christ de celle des plus grands saints, d'un saint Jean-Baptiste par exemple, hein? Une humanité plus humaine, simplement parce que divine. Voilà ce que l'on découvre avec ravissement quand on étudie Saint-Philippe Néri. Tout peut tenir dans un seul trait. Comment résumer Saint-Philippe Néri? Par une phrase, une ligne, l'union de la tendresse la plus sensible à la pureté la plus virile comme la plus délicate. Peu de saints, autant que lui, ont pleuré, se sont réjouis avec les hommes, leur ont donné le sentiment qu'ils partageaient et leur joie et leur peine, qu'ils les éprouvaient peut-être plus vivement qu'eux-mêmes. Quel maître, sinon notre Seigneur, a mis tant d'affection sentie dans ses rapports avec ses disciples? Personne comme Philippe n'a paru s'abandonner aussi spontanément aux sentiments les plus chauds et les plus vrais. Les larmes et le rire ont chez lui cette vérité intime qui donne tout son prix pour les simples hommes et les simples femmes qu'il a aidés. Et Saint-Philippe Néri devient un vieillard aux yeux clairs. Son apparence garde dans sa décrépitude une jeunesse qui semble angélique. Ce saint diffuse un charme pur, c'est la pureté qui l'habite. Les sensibilités perverties de la Renaissance, comme celle d'aujourd'hui, à son contact, se clarifient. On ne sait comment. Il n'y a pas seulement les vulgaires débauchés, mais aussi les amants frénétiques qui sont changés. Un enchantement est détruit par sa seule présence. Et les âmes captives du péché se retrouvent libérées. Si on veut connaître le don suprême de Philippe, nous ne pouvons dire que la simplicité, cette simplicité qui unifie toute l'âme, jusqu'en ses profondeurs, les profondeurs de l'inconscient sous le regard de Dieu. Mais si on demande quelle voie il a suivi, il n'y a pas d'autre réponse, c'est la simplicité encore. Cette simplicité qui consiste à marcher pas à pas avec Dieu, la main dans la main, entièrement fidèle à la grâce de l'instant présent. Dieu n'est pas dans l'instant d'hier, ni dans l'instant de demain, je vous le répète toujours, il est dans l'instant présent. mais il reste un mystère expliqué dans la simplicité à la fois toute humaine et divine de Philippe Néri. Il reste à donner du même coup la note spéciale qui est la sienne dans le concret de la sainteté chrétienne. Déjà, on a pu voir l'originalité, osons le dire, l'extravagance de Philippe. C'est Goethe qui disait que c'était un saint mystificateur. Non, non. Des nobles polonais viennent le voir un jour à la Valicella, la paroisse de Rome, comme une curiosité spécialement édifiante. Philippe les accueille avec beaucoup d'onction, mais prie d'écouter des bons livres où il prend sa lecture spirituelle. Alors, sur son ordre, un de ses disciples, un jeune oratorien, lit gravement les pires turlupinades, comme on dit, les blagues, les folies de Piovano Arlotto. Je spécifie qui c'est, que c'est des faits réels. C'est pour se moquer de ces Polonais qui viennent voir un saint. Ça le fatigue. Il y a une grande dame romaine qui invite Saint-Philippe à une réception pour le montrer au cercle de ses relations mondaines. Alors, il va arriver courtois et aimable à souhait, mais il est rasé de frais, mais d'un seul côté du visage. L'autre exhibe une barbe de 8 jours. Vous vous imaginez, c'est invraisemblable. Un évêque humaniste, et par surcroît peu porté à aimer la plaisanterie, assiste à sa messe et Philippe, imperturbablement, va y accumuler les barbarismes. Et pour comble, à peine rentré à la sacristie, il s'informe auprès du servant de la tête que faisait ce bon évêque digne docte seigneur. Je n'insiste pas sur les simples bouffonneries. Il s'accoutre d'une façon ridicule, avec des souliers blancs énormes, je vous l'ai dit, un manteau de fourrure ou un tricot rouge sur sa soutane. Il se promène un bouquet de fleurs jaunes à la main en prenant des poses inspirées. Il exécute devant tout un public de cardinaux, une danse burlesque en improvisant des vers humoristiques. Et à cela se joignent des tourpans d'âme, dont tout le monde autour lui est constamment la victime. Il peut s'agir de simples cocasseries inattendues. Il a tiré la barbe imposante d'un garde suisse. Je vous conseille pas de faire ça au Vatican. Ou bien il pose des lunettes sur le nez des bonnes femmes qui veulent lui baiser la main. Toutes sortes de folies. Bien sûr, Philippe tire parti de toutes les circonstances de sa vie pour s'élever à Dieu. En s'abaissant aux yeux des hommes, il dit toujours « Siat et humili, soyez humble ». C'était son refrain. Mais quelle drôle de façon d'être humble. Il n'empêche qu'il y a quantité de saints tout aussi mortifiés, il faut bien le savoir, qui auraient difficilement compris qu'on recherche l'humilité dans les manières de Saint-Philippe Néri. C'est pas une façon d'être humble, il me semble, et lui, il y trouvait l'humilité. La plupart de ses biographes sont efforcés d'excuser, d'expliquer ou de biaiser. Il faut y aller rondement. S'il a multiplié à ce point les facéties, c'est tout d'abord parce que son naturel l'y portait, comme je vous disais au début. Il ne voyait pas là de péché dans le fond de cette tendance. Il n'a pas cru davantage devoir s'y opposer, mais il y a plus, certainement. La façon tout à fait systématique dont il a cultivé la bouffonnerie a un sens profond. Et là-dessus, les auteurs de Vie de Saint n'ont pas tort. C'est leur explication seule qui est trop étroite. Philippe n'a pas multiplié les excentricités simplement pour avoir la satisfaction pieuse de passer pour un cerveau fêlé. Non, non, son humour débridé, c'est la traduction spontanée de cette liberté souveraine qui, chez lui, semble inséparable de l'état de grâce. Écoutez bien, c'est l'indifférence tranquille à l'égard de toute institution religieuse qui ne soit pas divine, autrement dit, qui ne soit pas l'Église du Christ elle-même. Tout ce qui est artificiel dans l'Église, les évêques qui se prennent pour d'autres à l'époque, qui sont mondains, qui portent des perruques, etc., cette défiance insurmontable du tout fait, des règles, des méthodes, des principes abstraits, surtout se refait obstiné d'être un personnage lui-même. Il veut pas être un personnage. Philippe sait d'instinct que la dernière ruse du démon est la plus subtile, c'est de nous faire naturaliser la grâce. Et toute la religion, dit Louis Bouillet, toute la religion, tout le christianisme finalement, n'est qu'un exercice de dépendance. Hein? C'est ça. La suprême malice de l'adversaire, c'est d'amener l'homme à s'emparer du don divin pour se l'attribuer. Mais l'humour de Philippe nous interdit de nous prendre aussi au sérieux. Et la prière favorite du saint, c'était « Seigneur, défiez-vous de Philippe ». Défiez-vous de Philippe? L'antidote du sérieux mortel où notre orgueil nous fige, c'est finalement la simplicité heureuse des enfants de Dieu. Revenus dans les bras du Père, rajeunis par l'infusion incessante d'une vie toujours nouvelle, pourquoi donc voudrait-on qu'ils se guindent, les catholiques? Seuls en ce monde, ils ont le secret de la joie véritable. Et la joie, à des gens qui n'en peuvent pénétrer les motifs, paraîtra toujours folle. Quand elle est d'une qualité aussi pure que chez saint Philippe Néri, elle peut tranquillement s'en moquer et dire, encore et toujours avec sagesse, « Je me réjouissais tous les jours, jouant devant lui, devant Dieu, sans cesse, jouant sur la surface de la terre. » Et mes délices ont été d'habiter avec les enfants des hommes. Il y a une belle prière aujourd'hui pour Saint-Philippe, qui s'adresse à Saint-Philippe. C'est tout court. Dieu qui ne cesse d'élever à la sainteté ceux qui te servent fidèlement, accorde-nous d'être embrasés du feu de l'Esprit-Saint qui brûlait si merveilleusement au cœur de Saint-Philippe Néri. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit-Saint pour les siècles des siècles. Amen.